histoires. Ah mais trop pique ton cœur, Caroline.
Et bonjour à tous et bienvenue dans Anti-Histo Amétropique. Aujourd'hui, on poursuit notre troisième thème des sièges de la guerre de Cent Ans en Limousin. Il y a deux semaines, nous étions à Ussel, en Corrèze, et nous en avions profité pour revenir sur les origines de ce conflit. Nous vous avions révélé aussi que durant la même période de ce siège donc français de la cité d'Ussel, alors sous occupation elle anglaise, un autre événement était arrivé, le sac de Limoges. Et c'est de cet événement dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant ça, comme toujours, nous allons faire une remise en contexte. Alors, Limoges, c'est quoi? C'est dans quel camp et c'est dirigé par qui à cette époque? D'ailleurs, cette époque, c'est durant la guerre de Cent Ans qui se déroule de 1337 à 1453. Très brièvement, nous avions vu qu'il s'agissait d'une guerre dynastique entre les Plantagenets, nobles français devenus rois d'Angleterre, et les Valois, qui ont récupéré la couronne de leur cousin capétien après que, un à un, tous les descendants masculins prétendant du trône décédèrent. De plus, les Anglais, grâce à un mariage avec la duchesse d'Aquitaine 180 ans plus tôt, pouvaient compter sur un nombre considérable de terres sur le continent. Presque toute la façade atlantique et une bonne partie des Pyrénées. La première partie du conflit a été en faveur des Anglais, conduisant à la signature du traité de Brétigny en 1360. La France acceptait de céder à l'Angleterre de nombreuses terres, dont l'Aquitaine, en échange du renoncement des Anglais à la couronne de France. Cependant, voilà. Le nouveau roi de France ne l'entendait pas ainsi et a décidé en secret de se préparer à reprendre les terres perdues. Cet homme, c'est Charles le Bon. À la fin de son règne, il réussit à récupérer toutes les terres que la France avait perdues depuis le début du conflit, et c'est donc dans cette période de reconquête que le siège d'Ussel et le sac de Limoges eurent lieu. Nous allons donc partir du traité de Brétigny. La France perd l'Aquitaine, qui est alors composé du Limousin. Son peuple est alors soumis à l'Angleterre. Seulement, comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent, le roi de France, en faisant traîner l'application du traité, reste maître virtuel de la région. De plus, il envoie des agents pour plaider sa cause et faire changer de camp la population ainsi que les seigneurs locaux. Alors que les habitants étaient initialement fatigués par la guerre, ils trouvèrent la paix anglaise aussi terrible, car ces derniers demandaient, mais donnaient très peu. La sécurité des terres occupées était négligée. Les nouveaux dirigeants ne luttaient pas contre les pillages perpétrés en grande partie par des mercenaires devenus chômeurs depuis le traité. Et donc, quand la guerre reprit son cours, le Limousin rebascula du côté de la couronne de France et fut en première ligne. Alors, dans ce siège, il faut distinguer la ville, ou plutôt les villes de Limoges, nous y reviendrons plus tard, du vicomté de Limoges. Même si en effet, la ville était son chef-lieu. Bref, les joies de l'administration de l'Ancien Régime. Alors, Commençons par le vicomté. Si vous connaissez bien la région, vous devez sans nul doute bien connaître le château de Ségur, qui se trouve en Corrèze. Ça tombe bien car il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, le nom de cette ville était aussi le nom d'un vicomté, le vicomté de Ségur, qui n'était autre que celui de Limoges. Pour être plus clair, le Limousin n'a jamais été une province unie. Au nord, il y avait les vicomtés de la Marche ainsi que de Briguié. Au nord-est, la seigneurie de Combrailles. À l'ouest, le vicomté de Rochechouart. Au centre, la seigneurie de Perras. Et enfin, au sud-ouest, le vicomté de Limoges ou Ségur. Et au sud-est, le vicomté de Ventadour, que nous avons d'ailleurs brièvement cité dans l'épisode précédent. Sans compter d'ailleurs les autres grandes familles vicomtales, à savoir Turenne, Combornes, Aubusson et Brosse. Pour revenir au vicomté de Limoges, on peut dire grossièrement qu'il s'étend dans un triangle partant du sud de la ville de Limoges, de l'ouest de Brive et de l'est de Périgueux, sans comprendre ces trois cités. Et à l'époque du sac de Limoges, ce vicomté est la propriété de la perdante de la guerre de succession du duché de Bretagne, à savoir Jeanne de Penthièvre, qui le mit sous la coupe du roi de France Charles le Bon. Donc, au début des hostilités, le vicomté de Limoges est français. Maintenant, passons aux cités de Limoges. Oui, vous avez bien entendu la marque du pluriel, car jusqu'en 1792 et la Révolution française, le Limoges actuel est en fait divisé en deux villes distinctes, avec deux administrations différentes. D'un côté, il y a la ville du château, qui est dominée par la puissante abbaye Saint-Martial, et en face, le long de la Vienne, la ville de la cité, dominée cette fois-ci par l'évêque et la cathédrale. L'évêque gère indépendamment son diocèse. Le vicomte représentait le comte de Poitiers, qui était aussi duc d'Aquitaine. Par conséquent, pour rester indépendant de l'église, le vicomte s'est installé à l'écart de la cité épiscopale, sur l'actuelle place de la Motte. Dans la basse-cour du château est construite la chapelle Saint-Michel des Lions. Mais comme nous l'avons dit précédemment, c'est un autre pouvoir qui vint s'installer dans cette partie de la ville. Comme l'évêque, religieux, mais indépendant et concurrent de ce dernier. C'est l'abbaye de Saint-Martial. Si vous êtes allé à Limoges, vous avez sans nul doute remarqué les longs travaux sur la place de la République, qui est longtemps mis au jour les vestiges de sa crypte, hébergeant le tombeau de Saint-Martial. Ce saint, c'est le premier évêque et le saint patron de la ville, et l'abbaye, l'une des plus belles et des plus célèbres de France. Le pèlerinage autour du sépulcre de Saint-Martial connaîtra un essor majeur au XIe siècle, surtout après 994 et l'épisode du Mal des Ardents. On sait aujourd'hui que le pain de seigle avait empoisonné une bonne partie de la population qui s'était retrouvée atteinte d'une terrible maladie. Une procession fut organisée avec la dépouille du saint et la maladie disparut. L'abbaye, à la suite des années, devient si puissante que le vicomte doit faire allégeance à l'abbé et qu'au début du XIIIe siècle, l'abbaye s'émancipe de la célèbre abbaye de Cluny. La ville donc qui héberge l'abbaye se trouve aussi sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui traverse Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, Saint-Léonard-en-Limousin et la ville de Périgueux, mais aussi sur une autre route, la route romaine, la Via Lemo Vincensis. Par conséquent, la ville du château, la ville de l'abbaye, accueille de très nombreux voyageurs. Grâce à Saint-Martial aussi, la ville devient un pôle culturel. Le scriptorium de l'abbaye est particulièrement réputé. L'atelier dans les Munures est très actif et créatif. On trouve aussi des ateliers d'orfèvrerie qui produisent un grand nombre d'objets liturgiques et d'émailleries champlevées sur cuivre. C'est ce qui sera appelé l'Opus Limo Vincense, ou œuvre de Limoges. La ville est aussi lieu de naissance de musique troubadour. En face du château donc se trouve la ville de la cité, dirigée par l'évêque, et elle a une population en partie cléricale. Elle est moins puissante mais contrôle le pont Saint-Étienne qui enjambe la Vienne, et elle dirige aussi un port fluvial très important, le port de Navet, qui lui rapporte un certain revenu. C'est dans cette ville qu'a lieu le couronnement des ducs d'Aquitaine en passant à leur doigt l'anneau de Sainte-Valéry, comme avec Richard Cœur de Lion. Thank you. Voilà, alors il est enfin temps de parler de ce siège. Il faut savoir que l'évêque Jean Le Croc était un ami et confident du prince de Galles. Le prince de Galles, c'est l'héritier du trône d'Angleterre. Bref, le 24 août 1370, vers 9h du matin, l'évêque ainsi que les consuls de la cité ouvrent les portes de la cité limogeaude aux Français. Ils abandonnent l'Angleterre et jurent fidélité au roi de France devant le maréchal de Sancerre, son représentant. Ils sont ensuite accueillis par les habitants avec des manifestations d'allégresse. On crie « Montjoie » et « Saint-Denis » du haut du portail et des murs au passage de la bannière royale. Quelques chevaliers et 80 hommes d'armes s'installent à demeure. La cité s'est donc ralliée au roi de France, mais le château et son abbaye, lui, est encore fidèle aux Anglais. Jean le Grand et son frère le Prince Noir prirent la décision de mettre en garde les autres villes sous domination anglaise du châtiment qu'ils réserveraient aux autres cités qui se hasarderait à réitérer une reddition telle que le fit la ville de Limoges. Et l'exemple se passa un mois plus tard. Et il nous est raconté par le chroniqueur Jean Froissart. Le prince de Galles fut très courroucé. Quand la plus grande partie de ses gens fut arrivée, on compta 1200 lances, chevaliers et écuyers, 1000 archers et 3000 hommes de pied. Le prince était accompagné de ses deux frères. Pendant près d'un mois, le prince de Galles assiégea la cité de Limoges. Puis, les mineurs firent leur œuvre et les Anglais entrèrent dans la ville, tout prêts à mal faire et courir la ville pour tuer hommes, femmes et enfants comme on leur avait commandé. Là, il y eut grand pitié, car hommes, femmes et enfants se jetaient à genoux devant le prince et criaient « Grâce, noble sire, grâce !» Mais il était si enflammé d'ardeur qu'il n'entendait pas que personne n'était écouté. Mais tous mis à l'épée. Quand on les trouvait et rencontrait, ceux qui n'étaient pas coupables, et je ne sais comment, ils n'avaient pas pitié de ces pauvres gens qui n'étaient pas capables de trahison, Iné si dur cœur se trouvant alors à Limoges, et qui se souvint de Dieu, qui ne pleura tendrement de la grande infortune qui était, car plus de 3000 personnes, hommes, femmes et enfants, furent tués et décapités pendant cette journée. Dieu en ait les âmes, car ils furent bien martyrs. Toute la cité de Limoges fut parcourue, pillée et dévastée sans délai, puis brûlée entièrement et mise à destruction. Et puis repartirent les Anglais en emmenant leurs butins et leurs prisonniers. Mais le chroniqueur a sans nul doute exagéré la chose, même si la chronique de Saint-Martial évoque la mise à mort de 300 habitants, ce qui est très important. La cité fut en grande partie détruite et mettra beaucoup de temps à se relever de ce désastre. Les habitants du château apportèrent tant bien que mal leur aide à ceux qui étaient parfois leurs parents ou amis. Et en 1378, un concile réuni à Paris accorda 40 jours d'indulgence à qui ferait des dons pour restaurer la cathédrale. La cité ruinée servit un temps de repère à des bandes de brigands avant que les habitants du château y mettent bon ordre. Cette journée du 19 septembre 1370 ternit pour toujours l'honneur du chevalier Prince Noir. Et voilà, c'est terminé pour ce second épisode des sièges limousins lors de la guerre de 100 ans. Et on approche de Noël et moi de mes examens. Pour cause de révision et de réveillon, l'émission sera en pause jusqu'au 12 janvier. Vous commencez à connaître la chanson. Si vous avez des éléments en votre possession sur cette histoire ou d'autres histoires limousines, je suis preneur. N'hésitez pas à me contacter sur martin@radiovassivière.com. martin@radiovassivière.com. Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.
On prendra pas la source.
Ah, métro.